Chers frères et sœurs, on va dire que d'une capitale à l'autre, de Jérusalem à Rome, c'est le début de la diffusion du message de Jésus que raconte Luc dans ses Actes des Apôtres. Le début de l'aventure Église. Et il raconte, sautant cette aventure, à Théophile. Les Actes des Apôtres sont dédiés à Théophile, mais l'Évangile aussi. Si vous allez regarder le premier chapitre de Luc, il parle aussi à Théophile en lui disant « Voilà tout ce que j'ai entendu ». Alors Théophile, un personnage dont nous ne savons rien, mais en fait, ce personnage, c'est nous. Théophile, c'est l'ami de Dieu. Alors, puisque tu es venu là pour écouter la parole de Dieu encore une fois, Théophile, c'est toi. J'aime mieux dire toi que vous, parce que c'est chacun de vous personnellement. Donc, Théophile, c'est toi, l'ami de Dieu, c'est bien toi. Pour nous promener dans ce récit de l'Ascension, nous allons prendre comme point de départ les questions qui s'y trouvent. Une question posée par les disciples, une autre question posée aux disciples, car les disciples, c'est nous aussi, ils nous représentent. Allez, suivez le guide. La première question, c'est celle des disciples posée à Jésus. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Tu peux imaginer la scène. Jésus les ressuscité est avec les disciples. Eux sont au comble de la joie car maintenant tout est possible. Le ressuscité est avec eux. Alors, qu'est-ce qui pourra encore leur résister? Et les voilà qui se mettent à espérer que c'est le bon moment pour rétablir le royaume d'Israël. Ils ont écouté ce que vient de dire Jésus. Il vient de leur parler de ce qui concerne le royaume de Dieu. Eux, ils ont compris, ou ils ont voulu comprendre, un peu autre chose. Eux, c'est du royaume d'Israël qu'ils partent, qu'ils parlent. Ce royaume d'Israël qui est sous domination étrangère depuis maintenant plusieurs siècles. On peut même se poser la question s'ils n'espèrent pas aussi quelques petits avantages pour eux-mêmes dans ce royaume à venir. Rappelez-vous, quand les disciples disent, ils se disputaient pour savoir qui serait assis à la droite de Jésus quand il serait dans son royaume. Et là, Jésus les avait renvoyés assez sèchement dans les cordes. Mais voilà, un petit poste d'honneur, pourquoi pas ? Mais leurs espérances vont être douchées par la réponse de Jésus. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Les termes utilisés, bon, le temps chronos, et puis le moment, c'est kairos, mais ça veut dire le moment favorable. Ces moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vouloir connaître, c'est une vieille histoire. Déjà tout au début de l'histoire biblique, dans la Genèse, c'est pour un fruit qui permet de connaître le bien et le mal que l'histoire du jardin d'Éden est partie en vrille. L'être humain veut connaître, il veut savoir ce qui l'attend. Connaître demain, c'est une vieille tentation, oui. Et pourtant, si tu connaissais ton avenir futur, toi, l'ami de Dieu, si tu pouvais voir dans un film ce qui t'attend pour la suite, est-ce que la vie serait encore digne d'être vécue? Est-ce qu'elle serait tout simplement vivable? Elle tournerait plutôt au cauchemar, non? C'est le Père, et lui seul, dit Jésus. C'est le Père qui connaît les saisons et les moments favorables. Et c'est justement ce qui donne tout son poids à notre présent. C'est le seul temps dont nous disposons librement, le ici et maintenant. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Ou bien est-ce qu'on se perd dans les souvenirs du passé, ou que l'on imagine avec joie ou pas l'avenir, sans nous préoccuper réellement du présent? Finalement, quelle chance de vivre et de décider, de choisir au présent, entièrement et intensément au présent, sans loucher ni vers hier, ni vers demain. Que le Seigneur te fasse cette grâce, toi l'ami de Dieu, celle de vivre ton présent d'un cœur léger, avec un engagement sérieux et profond. Rien de plus, rien de moins. Ce temps t'appartient, fais-en quelque chose de beau. En disant ça, je suis bien conscient qu'on est plutôt en train de parler aussi de cette notion du carpe diem. Profite de ta journée. Agis pour ta journée. Travaille pour ta journée. La deuxième question est posée par les deux hommes vêtus de blanc. Elle s'adresse aux disciples. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Très souvent, la Bible nous met en garde contre le voir, contre ce que nos yeux voient. Car la vue n'est pas un sens très fiable. La Bible nous met en garde contre toutes sortes d'illusions d'optique. Elle préfère de loin les oreilles aux yeux. Elle nous parle d'un message à entendre, d'un Dieu à écouter, puisqu'il parle. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut l'entendre. C'est ce que la Bible nous répète souvent. Ce que nous voyons nous induit en erreur plus d'une fois. C'est vrai. Peut-être parce que nous voyons ce que nous voyons nous paraît être la réalité toute crue. Peut-être aussi parce que les spectacles nous fascinent et nous grisent. En ce 21e siècle, nous sommes submergés d'images comme jamais auparavant. Et nous savons tous, on n'arrête pas d'en entendre parler ces derniers temps à la télévision, l'image est certes quelque chose d'important, mais on peut la trafiquer. Combien d'images trafiquées voyons-nous à la télévision, sur Internet ou simplement dans les catalogues, les prospectus qu'on reçoit? Pendant que toutes ces images déferlent sur nous, nous sommes les dieux écarquillés, comme ébahis, scotchés, immobilisés, tétanisés, comme les disciples fascinés par le spectacle de Jésus qui s'élève au ciel. Nous gardons aussi les yeux fixés. Mais sur quel spectacle? Est-ce le spectacle du mal qui nous fascine, dont les télés nous abreuvent? Est-ce au contraire la tentation de l'évasion dans un monde d'images douces et sucrées qui nous guette? As-tu remarqué, toi l'ami de Dieu, souvent tu vois les choses non pas comme elles sont, mais comme toi tu es. C'est comme cet homme de 81 ans qui arrive chez son ami tout mouillé et couvert de boue. C'est ce ruisseau là-bas. Avant, je traversais toujours d'un bond. Maintenant, j'atterris en plein milieu. J'ai pas remarqué que le ruisseau est devenu plus large. Et toi, si tu te baisses, est-ce que la terre est plus basse? Ça, c'est une petite histoire du père Anthony Di Mello. Que le Seigneur nous fasse cette grâce, celle de voir les choses comme elles sont, non comme toi tu es. Voir les choses comme elles sont, sans les enjoliver, sans les dramatiser. Tout un programme. On peut prendre cet exemple père de Demello, mais on peut aussi dire celui qui monte la rue ici en direction des Prégutins. Quand il le faisait à 20 ans, il le faisait au petit pas de course. À 81 ans, on va le faire, mais tranquillement, en s'arrêtant un certain nombre de fois. Ce n'est pas que la pente est devenue plus raide. Mais il faut en avoir bien conscience de cela. Aussi, de ce qui sont nos limites. Ce Jésus viendra de la même manière, disent encore les hommes vêtus de blanc. Et ce futur, il viendra, ouvre un espace, un temps nouveau. Entre maintenant et le retour du Christ, il y a un espace, il y a du temps. Et ça, on le sait bien, vu que les disciples espéraient qu'ils viennent encore de leur vivant et que ça fait quelque chose comme 2000 ans qu'on est en train d'attendre. Les temps ne sont pas encore favorables, dira Dieu. Finalement, l'ascension du Christ au ciel du Christ, c'est pour les disciples juste l'inverse. C'est le signal du retour à la terre. Cher ami de Dieu, te voilà renvoyé à ton présent, à aujourd'hui. Oui, aujourd'hui nous sommes venus pour nous souvenir de l'ascension de Jésus, mais c'est une fête qui tout au contraire te renvoie vers ici-bas, vers la vie, vers ton quotidien. Ce qui a changé, ce qui n'est plus comme avant, c'est que tu vis actuellement dans un espace et un temps habité par une espérance fondée sur un rendez-vous. Ce Jésus viendra de la même manière. Il te donne un rendez-vous pour l'avenir et en attendant, il t'envoie vers la vie pleinement vécue et te fait confiance pour vivre ce présent pleinement. Et à partir de maintenant, tu as dans ton baluchon pour voyager à travers la vie, ouais, alors disons, ton sac à dos, pour voyager à travers la vie, une invitation à exercer ton regard différemment. Toi, l'ami de Dieu, tu es invité à rééduquer tes yeux, le regard que tu portes sur la vie, ici-bas, sur les autres et sur toi-même. Alors je dirais, va avec cette force qu'il te donne. Amen.